Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Immo.
Eh bien bonjour mesdames et messieurs, on est ravis d'être ici en direct sur le plateau. Une fois n'est pas coutume, on a pour notre numéro de mai Maison Saine décidé de délocaliser un certain nombre de numéros parce qu'il n'y a pas mieux que d'aller dans les territoires et aller sur le terrain, prendre le pouls si je puis dire, des territoires sur cette problématique de la qualité de l'air intérieur, mais la qualité tout court de l'habitat, de la santé et l'usage de l'habitat. On est en direct d'un mouvement qui s'appelle Oikos. Oikos, c'est du grec. On retrouve le mot dans l'Iliade d'Homère. Et on est au salon santé, environnement, qualité de l'air, à la cité avenue Louis Breguet. Pas la cité de l'air et de l'espace, hein, c'est pas exactement le même endroit. C'est l'autre bâtiment magnifique. Et on est avec justement notre maître des cérémonies qui a organisé cet événement. C'est Bruno Tudal. Comment ça va, Bruno ?
Bonjour Sylvain, bienvenue à Toulouse et moi ça va très bien.
Alors Bruno, vous êtes l'hôte de ces lieux puisque c'est vous qui nous accueillez dans un climat, on va dire, très chaud, hein, on peut le dire comme ça.
Oui.
Et donc propice également à la discussion puisque ces changements brutaux climatiques, ça n'arrange pas nos affaires en matière respiratoire. La preuve, c'est que j'ai pris un gros mal de gorge à cause de ces changements brutaux de température, ce qui démontre encore une fois que votre action est plus que nécessaire. Elle est essentielle dans l'usage de l'habitat. Merci d'être avec nous. Également avec nous, Edouard David. Bonjour Edouard.
Bonjour Sylvain, ravi d'être
avec vous. Responsable du pôle d'engagement sociétal chez Murprotec. Edouard, ben, on se voit toutes les semaines, hein,
ouais.
Puisque vous animez une chronique tous les samedis sur justement une chronique Maison Saine sur la qualité de l'air intérieur et comment on utilise son habitat pour être en meilleure santé. C'est bien un petit peu l'ordre du jour quelque part et c'est également quelques mots sur le salon environnement, santé. Pour vous Bruno, c'était quoi l'idée ?
L'idée c'est tout simplement de faire quelque chose d'innovant et, voilà, qui n'existait pas ailleurs, qu'on ne retrouvait pas sur les autres congrès de santé et où on voulait que les professionnels de santé rencontrent les acteurs de la qualité de l'air intérieur et à une échelle régionale ça paraissait plutôt pertinent et bon, moi ayant grandi en Haute-Garonne, ça me paraissait tout à fait logique de le faire à Toulouse.
Asthme, allergie, fatigue chronique, troubles respiratoires, finalement on pourrait se dire, je caricature un tout petit peu peut-être, que notre logement peut devenir une arme, en tout cas un facteur aggravant du risque sanitaire. Alors justement, on profite de cet événement pour avoir réuni tout à l'heure, comme d'habitude dans notre émission, des experts, des personnes qui vont nous donner les bonnes clés de compréhension. Mais Bruno, vous qui êtes l'organisateur, on parle de cette pollution extérieure, on parle encore trop peu de cette pollution intérieure. Encore une fois, on n'en parle pas assez. Pourquoi la qualité de l'air dans nos logements est-elle devenue, de votre point de vue, vous qui êtes conseiller médical, comment on dit, conseiller médical en environnement intérieur, CMEI, hein, un métier nouveau que vous avez pris à bras le corps. Pourquoi on en parle finalement assez peu et que ce n'est pas devenu un enjeu de santé publique comme ça devrait l'être ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est les connaissances scientifiques qui manquent. On fait des recherches en France dans ce domaine-là, mais peut-être pas assez. Et donc, les données dans ce domaine manquent un petit peu. Aujourd'hui, voilà, on a assez de connaissances pour pouvoir conclure sur pas mal de choses et comprendre justement que ça devrait être une priorité. Mais voilà, il faut mettre plus de moyens.
Qu'est-ce qui manque ? C'est les moyens financiers ? Est-ce que c'est des moyens humains ? Ou est-ce que c'est aussi une prise de conscience qu'il faut continuer à irriguer, comme on le fait avec Edouard depuis maintenant presque 2 ans, quasiment toutes les semaines, pour modifier le comportement à la fois des professionnels de l'immobilier, parce que ça compte, bien évidemment, mais aussi des usagers ?
Oui, il faut sensibiliser énormément et voilà, nous à notre échelle on le fait, mais on a besoin de plus de soutien. Les conseillers médicaux en environnement intérieur, c'est une profession qui a beaucoup de mal à émerger. Ça paraît nouveau, mais ça fait 30 ans que ça existe. Moi, je fais ça depuis 10 ans et depuis 10 ans, je me bats pour la reconnaissance de ce métier. On en est toujours aujourd'hui à discuter de est-ce que c'est rentable ou pas.
Oui. Donc, Parce que le vrai sujet, il est là. C'est le nerf de la guerre. C'est bien sûr l'argent, les moyens qu'on a. Je regardais, hein, on en a souvent parlé avec Edouard. 20 000 décès recensés directement et indirectement. C'est très bien documenté. Hein. Ce n'est pas des chiffres qu'on avance comme ça. De grands professeurs de médecine qui sont venus ici, sur le plateau, nous l'ont dit. C'est le nombre de décès, 20 000. Contre à peu près 4 000 décès pour la prévention routière. Quand on voit le mouvement incroyable autour de la prévention, ce qui est une très bonne chose, on devrait, vous êtes d'accord Bruno, avoir le même dispositif sur la santé dans l'habitat. Vous êtes d'accord ?
Bah, bien sûr. On n'a pas aujourd'hui une prévention à la hauteur des enjeux. Et moi, j'ai toutes les semaines des gens qui m'appellent qui sont en détresse et qui ne savent pas vers qui se tourner parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et qu'ils n'ont personne.
Alors justement, on va travailler justement et essayer de répondre aux questions des auditeurs sur le lien que l'on a quand on a une fatigue chronique, on n'est pas mis à la maison. Comment arriver consciemment à faire le lien avec la qualité de l'air. Parce que chez Murprotec, Edouard, vous défendez l'idée que l'humidité, c'est pas seulement un problème de mur, je vous cite, hein, c'est un problème de santé. Alors là, vous y allez fort, hein, c'est pas un problème de mur, c'est un problème de santé. Que montrent aujourd'hui les études en matière de retour terrain ?
Les études et les retours terrain sont clairs aujourd'hui. Il y a un consensus scientifique qui est clair. Un logement humide dégrade la qualité de l'air intérieur et favorise l'apparition de moisissures, d'acariens et de polluants biologiques.
Et c'est ça qui contamine. Hein,
et c'est ça qui contamine, puisque aujourd'hui l'OMS le dit. Hein, l'OMS associe directement l'humidité et les moisissures, si vous voulez, à une augmentation des troubles respiratoires, des allergies et de l'asthme. Et concernant les retours terrain, si on regarde nous d'un point de vue aujourd'hui, nous Murprotec, acteurs aujourd'hui du diagnostic et du traitement de l'humidité, le constat est clair aussi, et il est très concret, c'est qu'on observe quotidiennement sur le terrain, en effet, une fatigue, une irritation, un inconfort respiratoire de la part des habitants.
Donc si... Je suis pas bien. Il y a vachement de gens qui sont dans cette situation. Je suis pas bien, je respire mal. Je sais pas que c'est mon truc. Je mets ça sur le coup de la fatigue. J'arrive pas à avoir un sommeil réparateur. Combien de temps il me faut pour faire le lien ? Comment je vais arriver à faire le lien ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça ?
Le lien, il est difficile à faire, Sylvain. Nous, c'est ce qu'on constate, parce qu'on nous appelle pour un problème de bâtiment. Bon. Et on voit bien à quel point les ménages français ne savent pas qu'ils se mettent en danger. Ils ne se mettent pas en danger négligence, mais par manque d'information. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un cruel manque d'information. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les deux mots d'ordre sont prévention, sensibilisation. C'est pour ça qu'on œuvre avec cette édition Maison Saine, justement, pour qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure transmission, justement.
Justement, Edouard, vous, sur le terrain, quand les Français ils voient qu'il y a des traces d'humidité au mur, qu'il y a de la moisissure, est-ce qu'ils pensent que ce n'est pas très grave au début ? Comment on les amène en disant, ouais, écoutez, vous voyez ce que vous voyez ? Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, d'ailleurs. Il faudrait aussi que vous m'en parliez. Comment on fait pour faire le lien entre les deux ? Il faut qu'il y ait l'intervention d'un pro. Exactement. Qui dit, attendez, là, dans la chambre, la trace de moisissure peut gêner. Enfin, voilà, ce n'est pas évident.
En effet, le constat qu'on fait, c'est que pour la plupart des gens, ce n'est pas très grave. C'est une petite tâche. Voilà. Et ce qui se cache derrière cette tâche, c'est souvent un déséquilibre qui est beaucoup plus profond. En effet, ça peut être des remontées capillaires, ça peut être des infiltrations, ça peut être un problème de ventilation. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les moisissures libèrent des spores invisibles qui se baladent dans le logement et qui sont responsables justement des problèmes sanitaires qui vont apparaître justement après. Donc le danger, on le sait, c'est l'exposition répétée. Voilà, dans le temps, notamment pour les personnes qu'on sait plus vulnérables, les enfants, les seniors notamment aussi également. Ce qui est important de dire, c'est que c'est pas un problème qui est esthétique. Ces moisissures-là, c'est pas un problème esthétique, c'est un enjeu de santé publique, et donc c'est là tout l'objectif à un moment donné, qu'il y ait une meilleure prise de conscience de la part des gens que c'est un véritable enjeu.
Bruno, alors justement, ce salon, il est dédié aussi aux acteurs de la santé, du bâtiment, de l'environnement. C'est une première, hein, ce que vous faites, c'est une première. Puis il faudra venir aussi le faire un peu partout en France, hein, parce que ça, c'est un
objectif.
Est-ce que ça veut dire que le sujet habitat aujourd'hui, clairement, hein, si c'est pas le cas, vous nous le dites, et santé sont désormais indissociables.
Bah, pour moi, c'est indissociable.
Mais est-ce que vous le sentez plus qu'avant aujourd'hui, en ce moment, dans le contemporain ?
Oui, c'est de toute façon, on le ressent, puisque moi, j'ai des acteurs du bâtiment, de la ventilation, etc., qui viennent me chercher pour travailler avec moi. Donc, je me rends bien compte qu'en fait, voilà, eux, ils se rendent compte que leur activité a un impact sur la santé des occupants et que ça peut être aussi une image de marque de montrer l'efficacité de leur système ou de leurs travaux pour les occupants, voilà, les personnes qui vivent dans ces bâtiments.
Non, mais soyons clairs. Ces personnes qui font de la ventilation,
oui,
qui font des opérateurs, ce sont des industriels qui vendent du produit. Mmh. Pour bien vendre le produit, ils ont intérêt à le vendre à des personnes qui doivent être, dont l'usage doit améliorer leur santé. Parce que si j'améliore la santé, je suis un meilleur client. Donc en fait, finalement, sans aller sans faire d'idéal dans le business, par exemple, c'est de se dire que c'est très sain qu'une industrie vous consulte. Puisque si ça améliore le mode constructif ou si ça améliore la ventilation, ils vendent mieux. Tant mieux pour eux, surtout tant mieux pour les usagers qui vivront mieux et en meilleure santé.
Bien sûr.
Moi, je trouve ça très sain de lier le côté, vous voyez, industriel,
bien sûr,
business et la qualité de la santé. Parce qu'il n'y a comme ça que ça peut fonctionner. Et je pense que c'est une très bonne chose. Vous revenez tout à l'heure, si vous voulez bien, pour faire la conclusion de notre émission, parce que justement, on le voit déjà, hein, derrière les questions d'humidité ou de ventilation, les amis, se cachent de véritables enjeux sociaux, sanitaires et sociétaux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et pour approfondir cette question, on s'est permis d'inviter des personnes de marque avec une première grande table ronde qui va être consacrée aux grands enjeux de la santé qui sont liés à la qualité de l'air et particulièrement ici en Occitanie. On se retrouve dans quelques instants. Eh bien les amis, voilà, de retour sur le plateau pour notre nouveau numéro de Maison Saine du mois de mai où on délocalise notre plateau au salon justement de l'environnement et de la qualité de l'air ici à Toulouse, Oikos 1. Oikos, comme tout le monde le sait, c'est la demeure justement dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère qui représente la maison et tout ce qui va avec, présidé bien évidemment par Bruno Tudal et le docteur Papex qui ont organisé cet événement. Pour cette première table ronde, on va prendre une question majeure, qui est d'ailleurs, à l'instar du climat actuel, on va en parler, les grands enjeux de santé liés à la qualité de l'air en Occitanie, en compagnie du docteur Joël Spirou devant de moi. Vous êtes médecin-chercheur, merci d'être avec nous.
Et merci
de nous faire bénéficier effectivement de votre science, puisque vous venez de m'apprendre justement qu'on a sur le visage plusieurs... on peut dire ça, un microbiote, c'est un écosystème.
Oui, microbiote, c'est, oui, parce que c'est le développement de bactéries, virus, etc., qui se développent sur des écosystèmes particuliers. Donc des qualités différentes. Donc on n'a pas la même peau sur le front, voilà, sur le nez, dans le cou.
Ce qui démontre que ces microbiotes ou ces bactéries sont parfois nécessaires à l'équilibre de la santé, bien évidemment. Alors justement, on voulait en parler avec des professionnels en la matière. Stéphie Rocky, on dit Rocky ou Rocky ?
On dit Rocky.
Rocky. Stéphie Rocky, vous êtes mycologue.
Oui.
Donc c'est l'étude des champignons.
C'est ça.
Mais alors, pas n'importe lesquels, hein. C'est pas les champignons qu'on trouve. Si on veut avoir un plan sur un arbre truffier, par exemple, c'est pas vous qui pouvez aller voir.
Non, là, c'est pas moi. Voilà. Non, je travaille sur les moisissures qui ont des impacts sur la santé.
Oui, là, c'est beaucoup plus sérieux pour le coup, parce que c'est beaucoup moins drôle quand ça nous arrive, bien évidemment. Et vous en direz quelque chose. C'est un vrai sujet, d'ailleurs, puisqu'on en parle de plus en plus en ce moment. Et ce qui est très intéressant, moi qui connais bien l'immobilier, le bâtiment depuis très longtemps, c'est la première fois, effectivement, depuis quelques années seulement, qu'on commence à parler de santé dans l'habitat et d'établir des liens de causalité entre le bâti, l'usage du bâti et la qualité de la santé. C'est important aussi qu'on ait des politiques. Vous savez, sur le plateau, c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'un politique. J'ai le plaisir de recevoir Gaëtan Cognard qui est avec nous. Bonjour Gaëtan.
Bonjour et merci de cette invitation.
Alors, vous êtes conseiller municipal délégué à l'écologie, à la qualité de l'air, à l'énergie de la ville de Toulouse, mais également vice-président de la métropole question justement de l'écologie. Grand sujet d'ailleurs de l'écologie, puisque l'écologie, c'est aussi une façon de voir le monde, pas forcément tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être également, avec une amélioration des conditions de vie. Et on sait que l'habitat est un des éléments qui peuvent à la fois améliorer, mais aussi détériorer grandement la qualité de vie. Alors, je voudrais que vous posiez, commencez à vous poser une question un peu plus générale à chacun. Et je vais commencer par vous, professeur, si vous voulez bien.
Merci, mais
Docteur. Effectivement. Alors oui, je rappelle, parce que vous m'avez expliqué qu'effectivement, quand on est professeur, c'est qu'on a une carrière universitaire, ce qui n'est pas votre cas, mais ce qui ne vous empêche pas la qualité de docteur et de chercheur, bien évidemment.
Merci à vous.
Merci, désolé d'avoir fait cette rupture. Alors, ça aurait pu être une prophétie, mais ce n'est pas le cas. Non. En Occitanie, on rencontre de plus en plus des épisodes de chaleur, très importants, d'humidité dans l'habitat, versus effectivement un climat qui est soudain, changement, une pollution intérieure et une évolution des modes de vie, notamment dans l'usage, la qualité de l'air devient un véritable enjeu de santé publique. Selon vous, pourquoi est-il encore aujourd'hui urgent de considérer, et c'est pas anodin comme question, la qualité de l'air intérieur comme un sujet central, pour pas dire majeur, de santé environnementale, au même titre, par exemple, au même titre que l'eau ou l'alimentation?
Eh bien, écoutez, votre question est tout à fait pertinente. Pourquoi ? Parce que il s'avère que la qualité de l'air intérieur est entre 3 fois ou 5, jusqu'à 5 fois, parfois, plus toxique que l'air extérieur. Déjà, c'est le premier point. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'air intérieur est en relation directe avec l'air extérieur. Et que dans l'air extérieur, on retrouve aussi tous les produits chimiques, qu'on appelle des xénobiotiques, dont des produits qui ont été inventés par l'homme, hein, dont les perturbateurs endocriniens, mais aussi les microparticules de plastique, de carbone, avec les combustions des voitures, des cheminées, etc. etc. Et tout cela, ça vient aussi rentrer dans les maisons et se cumuler avec les problématiques bactériologiques, hein, dont nous parlera Madame Rocky. Voilà, désolé. Et donc, il y a un cumul. Et il y a un cumul aussi du fait de notre habitus, c'est-à-dire notre façon de vivre un lieu. Hein, et le vivre un lieu, eh bien, ça dépend aussi de la pollution de l'air dans la maison. Ça dépend des objets qui sont là, de mode de vie. Si on a une cheminée à foyer ouvert, foyer fermé, si on cuisine au gaz, etc., etc. Et si on prend soin à vérifier, par exemple, l'hygrométrie, hein, parce qu'une hygrométrie élevée va favoriser les moisissures, etc., etc. Et pareil pour les ustensiles utilisés, par exemple, mettre des déodorants, etc., etc. Ça apporte
Si je vous suis bien, docteur, ça voudrait dire que dans le manuel de l'usage de l'habitat, j'exagère peut-être un peu, mais on devrait dire aux gens, avoir une mesure hygrométrique normale, ça se vérifie, de voir que les personnes, de manière, comme quand on va faire refaire son tartre une fois par an, enfin, on se fait des tartres et les dents, ça, une fois par an, pour ceux qui ont le courage d'aller chez le dentiste, de se dire, on va faire vérifier la VMC, enfin, des choses très anodines qui sont dans l'ordre de l'usage, parce que actuellement, ce type de sujet, de mesure hygrométrique, mesure de la VMC ou de la performance de la VMC, il n'y a quasiment personne qui le fait.
Oui, exactement, personne ne le fait.
Personne, mais vraiment personne. On a fait des études, c'est sidérant.
Bien sûr. Non, il y a un problème aussi, on parlait de l'hygrométrie, mais la température est importante aussi.
Oui.
Vous avez une hygrométrie élevée et une température élevée, ça va mettre en suspension les moisissures, les poussières, etc., etc. On a eu un exemple dans les années 70, après la première crise du pétrole, où on a transformé les maisons en bonbonnières parce qu'il y avait des fuites sous les fenêtres, les portes, etc., etc. Et on a continué à chauffer et on a mis en suspension, comment dirais-je, tout un tas de microparticules et de moisissures, etc. Et ça a été l'origine de la bronchiolite chez le nourrisson. Pourquoi ? Parce que cet air trop sec, avec des poussières, a favorisé le développement au niveau des bronches et des bronchioles du virus syncytial, qui est la cause biologique de cette bronchiolite. Et donc, ça s'est passé parce qu'on a commencé à améliorer l'état. On a quand même moins de bronchiolites de nourrissons maintenant, mais maintenant, on trouve des bronchiolites chez les personnes âgées.
Mais oui, voilà. Il y a un effet rebond. Alors, c'est très intéressant. On va continuer sur le sujet. C'est intéressant parce que c'est tellement plein de bon sens qu'on se dit, mais comment le fait qu'on ne le sache pas. Stéphie Rocky, alors déjà, reparlez-nous exactement de ce qu'est votre métier, parce qu'il est quand même, à moi de mon point de vue, méconnu. Moi, je vous connais. J'aimerais bien savoir exactement ce que vous faites, parce que c'est un métier qui me paraît essentiel. Et j'aimerais avoir votre avis exactement dans cette question un peu d'intro générale sur le fait qu'on devrait peut-être, et d'ailleurs moi je pense qu'on va utiliser nous nos médias pour le faire, pour pousser sur justement mettre au même niveau eau, alimentation, qualité de l'air et polluants intérieurs dans l'habitat, avec un usage de l'habitat qui soit à la fois harmonieux, responsable et bien sûr écologique. On en parlera avec vous, Gaëtan. Qu'est-ce que votre avis également, et en même temps aussi votre réflexion sur le fait qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de santé publique, c'est une bonne chose d'ailleurs.
Oui, alors pour revenir sur mon métier, donc je suis mycologue, et donc on a toute une partie de travaux de recherche sur lesquels on s'appuie pour mettre en pratique, en routine, voilà, les choses qui nous semblent intéressantes. Et donc, on s'intéresse à mesurer l'exposition des gens, essayer de faire le lien avec les pathologies qui sont développées. Et donc, exposition aux moisissures, ça c'est sûr, mais on a aussi élargi notre panel avec l'exposition aux bactéries, aux acariens, aux blattes, tous ces agents biologiques qu'on va retrouver à l'intérieur des logements.
Les blattes, ça peut être mauvais pour la santé ?
Ah oui. Oui, je crois que c'est le deuxième allergène après les acariens. Et donc, bah, généralement, voilà, logement...
Les blattes, c'est les cafards, quoi.
Bah, c'est ouais. Ça. Et généralement, logement humide, moisi, vont régulièrement, en tout cas dans notre région, avec présence de blattes. Donc, en fait, on a un cocktail de choses auxquelles on est exposé.
C'est l'enfer, les blattes. Hein, c'est...
Et puis, généralement, c'est plusieurs logements au sein d'un même immeuble qui sont touchés, puisqu'elles passent par les gaines de ventilation, quand il y a de la ventilation. Okay. Mais voilà.
Alors vous justement, et dans votre génération aussi, est-ce qu'on est plus sensible aujourd'hui à la santé publique dans l'habitat ? Parce que je pense que docteur, vous êtes, je suis plus proche de votre génération bien évidemment, mais vous n'avez pas l'impression qu'on parle plus mieux maintenant de cela ?
Eh ben, oui, bien sûr, on commence à en parler, mais oui. Ça reste simplement des paroles, parce qu'il n'y a pas de décision effective. Donc passer de l'idée à l'acte, on n'en est pas encore là.
C'est pour ça qu'il faut justement prendre la parole et irriguer. Donc, et puis, quelle est votre position là ?
Souvent, pour ceux qui pensent qualité de l'air intérieur, souvent ce qui vient en premier, c'est les polluants chimiques. Et donc on oublie toute la composante biologique qui peut aussi avoir des effets délétères. Et puis souvent, c'est un cocktail. Hein. On est exposé à du chimique plus à du biologique.
Alors, comment démarre votre action ? Et comment est-ce que vous avez une action qui est préventive, qui est thérapeutique, et comment ça se passe ? Vous êtes dans le domaine plutôt de la recherche et de l'observation.
Eh bien là, le CHU...
Quand est-ce que, où ça commence avec vous et où ça s'arrête ?
Eh bien pour la pratique de routine, c'est les CMEI qui sont envoyés au domicile des patients
conseillers médicaux
en environnement intérieur. Et en fait, c'est sur prescription médicale, donc le patient a déjà une pathologie où on suspecte une origine environnementale. Et donc là, sur prescription médicale, les CMEI sont envoyés au domicile pour faire un diagnostic d'environnement intérieur. Et donc nous, on a la chance de travailler avec 3 CMEI en Bourgogne-Franche-Comté qui font des prélèvements de moisissures. Et donc tous les prélèvements nous arrivent au laboratoire et donc nous, on identifie toutes les moisissures présentes. Okay.
Donc vous travaillez en laboratoire ?
Oui, alors...
Essentiellement ?
Alors plus maintenant.
Plus maintenant.
Plus maintenant, j'écris des projets de recherche et je valorise les résultats. C'est plus moi dans les labos, mais
Est-ce que justement, vous diriez que la dynamique qui a été engagée autour de cette problématique vous paraît positive ? Je reprends les mots du docteur Spirou devant moi, mais de dire, bon, ok, on en parle, c'est déjà un premier début, puisqu'avant on n'en parlait carrément pas. Donc pour justement modifier les choses, est-ce que ça vous semble réel et efficace, de votre point de vue ? Est-ce que vous voyez les lignes bouger ?
Oui, alors, de mon point de vue, oui, mais c'est biaisé, parce qu'on est, voilà, on est une région...
Biaisé.
On est une région très active au niveau du réseau. Voilà, on a vraiment la relation pneumologue, allergologue, CMEI et mycologue qui marche super bien dans notre région. Mais je sais que ce n'est pas du tout le cas partout. Et on travaille avec des CMEI qui nous demandent de faire des prélèvements. Alors, ce n'est pas sur place, mais d'envoyer un dispositif qui permet de faire des prélèvements dans d'autres régions de France, parce que ça, ce n'est pas disponible dans leur région. Donc, moi, c'est biaisé, parce que dans notre région, c'est quelque chose qui marche bien.
Oui. Par contre, on ne peut pas le dupliquer, on ne pourrait pas dupliquer.
Eh bien, j'aimerais qu'on arrive.
Ça serait bien de s'inspirer des bonnes pratiques. Hein,
j'aimerais qu'on arrive à harmoniser les.
Eh bien,
les
justement,
méthodes.
Vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté.
Oui.
Eh bien, écoutez, on a quelqu'un qui est en Occitanie, qui est un homme politique à côté de nous. Voilà. Je ne pouvais pas résister. Gaëtan Cognard, une collectivité peut-elle aujourd'hui agir très concrètement sur la qualité intérieure des logements, des bâtiments publics, en s'attaquant notamment à un grave sujet social et sociétal qui est celui des logements insalubres ? Et le problème des logements insalubres à Toulouse, vous connaissez bien le sujet, malheureusement, c'est qu'il est tellement difficile de se loger, docteur, ça vous le savez, dans ce pays, que même quand on a un logement insalubre, eh ben on se tait, on ne dit rien, de peur de le perdre. Je sais que vous y êtes très sensible. Donc,
oui, alors, oui, on peut agir sur la question de la qualité de l'air intérieur des logements, mais des bâtiments publics aussi. Et c'est important. Un, parce que dans le cadre du Code de l'environnement, on a l'obligation d'avoir à non seulement identifier, faire des autodiagnostics, pour notamment les VMC, pour tous les ERP dont nous avons, les établissements recevant du public, la responsabilité, que ce soit les écoles maternelles, les écoles primaires ou les CLAE. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, vous l'avez dit, c'est aussi de s'intéresser aux logements insalubres. Donc les logements insalubres, on a un service hygiène, et donc où on a des accords avec l'ARS pour pouvoir intervenir directement. Ça, c'est les moyens d'action. Mais il y a eu un point de vue historique, notamment qui a été fait par le docteur, et une analyse plus scientifique. Mais on le sait tous autour de la table, la question de l'air intérieur est beaucoup liée aussi à la question de l'air extérieur, et ça a été dit. Parce qu'on passe 80% de notre temps en intérieur, et de fait, dans une ville, dans une grande ville, comme Toulouse, une métropole, eh bien, où il y a beaucoup de flux, de transports routiers, et lorsqu'il y a une concentration, une densité de population, améliorer l'air extérieur, et c'est là où on a aussi beaucoup de leviers, permet, même s'il ne résout pas tout sur les questions effectivement d'humidité et dans les logements intérieurs, permet grandement d'améliorer la situation pour tout le monde. C'est un peu cet objectif aussi qu'on s'est donné. Et comme je disais, avec des leviers opérationnels, on a un plan climat, air, énergie, territoire, qu'on va d'ailleurs remettre en place.
Surtout qu'à Toulouse, vous connaissez régulièrement des épisodes de pollution atmosphérique qui est liée peut-être à la structure même de la métropole telle qu'elle existe. C'est pas évident pour vous.
Alors, pas forcément régulièrement. Alors, les épisodes de pollution sont plutôt l'hiver. Pourquoi ?
Parce l'hiver.
C'est plutôt l'hiver, généralement, sous toute réserve, sauf quand il y a des cas de chaleur importante. Mais plutôt l'hiver, pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement le transport routier, mais il y a aussi le chauffage au bois, ça a été évoqué, notamment pour l'extérieur. C'est à l'origine, quand même, l'hiver, de quasiment 49% de la pollution atmosphérique avec les particules fines.
Ah oui, quand même.
Donc c'est pour ça qu'en termes de levier, nous avons fait le choix, il y a déjà un an, de faire en sorte de donner une prime pour le changement du chauffage au bois sur Toulouse. On a encore quasiment 16 000 foyers ouverts sur Toulouse Métropole, et donc qui non seulement polluent l'air extérieur avec les particules fines, avec toutes les cances que vous connaissez, mais aussi à l'intérieur. Donc, et ça ne se sait pas assez, donc j'en profite d'être là. Il y a des demandes possibles, ça peut aller jusqu'à 2 700 euros en fonction de vos revenus, pour avoir la possibilité de changer votre foyer ouvert ou...
Quand on est en maison individuelle, mais quand on est dans un logement collectif ?
Ah ben ça peut s'envisager aussi dans des copropriétés.
Copropriétés,
oui,
bien sûr.
Ça peut s'envisager aussi. Donc, agir, et là où on a plus de leviers très directs, et pour ne pas réparer...
Il y a les réseaux de chaleur urbains auxquels on peut se raccorder également.
Alors, il y a le réseau, mais effectivement, c'est pas l'ensemble des logements, on fait en sorte de l'étendre.
Bien sûr, bien
on est
sûr.
Dans l'un des plus gros réseaux de chaleur de France. Mais il y a un autre levier, notamment sur la question de l'air extérieur, c'est la question des primes aussi à l'électrification des véhicules. Donc que ce soit
la
ZFE a participé, que ce soit les critères 4 et 5 des voitures, effectivement, qui n'ont pas l'autorisation de pouvoir rentrer.
Bien sûr.
Sauf, alors là je précise, c'est toujours dans la nuance, en demandant pour les petits rouleurs un pass pour qu'ils puissent aller, parce que vous savez, il y a le sujet de l'ambition écologique qui est très importante, mais après la mise opérationnelle. Et quand obliger une personne avec des revenus très bas d'avoir à changer pour un véhicule électrique qui coûte cher, ça peut être compliqué aussi.
C'est pas compliqué, c'est carrément impossible.
Donc voilà. C'est bien pour ça que...
On est tous d'accord sur le sujet de l'écologie, Gaëtan, ça vous le savez déjà. De toute façon, ce débat, vous le menez régulièrement. Politiquement, on peut le comprendre. Il n'y a personne qui pourrait dire, ici présent, même dans le public, qu'on est contre des mesures écologiques, bien évidemment. Mais il y a une réalité qui s'impose. La réalité, c'est 30% de précarité sur le logement supplémentaire depuis les 10 dernières années. C'est une inflation spéculative sur les loyers, et particulièrement à Toulouse, et ça, vous le savez déjà. Où là, c'est incroyable, parce que vous avez la rançon du succès. Vous avez une métropole qui gagne 10 à 15 000 habitants chaque année.
Oui, on est dans ces
qui en fait la métropole la plus attractive de France, quasiment. Sauf que le compte n'y est pas sur le logement des personnes qui arrivent, que la précarité, forcément, donc rareté de l'offre, concentration sur un habitat urbain contraint et forcément précarité. Ça ne va pas être simple. Hein,
Pour revenir sur le sujet de la qualité, malgré ce développement, vous voyez, il y a eu une étude récente d'Atmo avec qui on travaille très bien, qui ont de nombreux capteurs. Enfin, c'est vraiment l'entité qui permet d'identifier la qualité de l'air extérieur. Malgré l'augmentation de 11% du nombre d'habitants et l'augmentation du nombre de kilomètres parcourus, les oxydes d'azote et les particules fines de 10 microns et de 2,5 ont baissé de près d'un tiers depuis 8 ans, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même pour Toulouse, d'avoir, malgré l'augmentation de la population,
ce qui démontre une baisse d'un tiers. Votre politique porte ses fruits. Et d'ailleurs, je salue l'action de...
Attendez, vous le disiez.
Je salue l'action, et ça, de toute façon, c'est connu, de Jean-Luc Moudin, qui a fait un gros travail pour Toulouse. Et puis, bravo, parce que vous avez gagné. C'était pas évident, le combat électoral. C'est important d'avoir gagné le combat électoral, je vais vous dire, parce que c'est aussi la façon dont les administrés vous disent ce que vous avez fait pour nous, en matière écologique, c'est bien. Oui. C'est un blanc-seing qu'on vous dit de faire. Justement, quand vous voyez... Docteur Spirou, des hommes politiques engagés comme Gaëtan sur la question de la santé, de l'écologie, parce que dans l'écologie, bien évidemment, il y a la santé et la ressource. Est-ce que ça vous rassure ?
Bah oui, bien sûr que ça ne peut que me rassurer. Cela dit, il faut qu'on soit très très vigilant sur le résultat de ce que l'on fait.
Bien sûr.
Parce que par exemple, pour la qualité de l'air, eh bien, PM10, PM2,5, c'est bien, mais les plus toxiques, c'est PM1, PM0,1. Et ceux-là, on ne les dose pas en routine et on les dose que de façon très exceptionnelle. Et ceux-là, ils sont bien plus toxiques que les deux précédents. Donc, on ne gagne pas la partie comme ça. Ce n'est pas si facile que ça.
Hein, parce que... Oui, excusez-moi, docteur, je voulais revenir sur un point que j'avais noté. Vous nous avez dit, c'est qui les types de personnes les plus touchées en ce moment ? Parce que vous aviez dit, on a éliminé la bronchiolite des bébés.
Oui.
Et vous avez parlé des personnes âgées.
Oui.
Alors, aujourd'hui, si je vous demandais, vous, en tant qu'expert, de nous dire quelles sont les populations les plus touchées, qu'on le dise au public.
Les populations les plus touchées, c'est les plus fragiles. Donc les plus fragiles, c'est à la fois les nourrissons, les enfants et puis les personnes âgées. Pourquoi les personnes âgées ? Parce que, en vieillissant, elles se sont amenuisées, elles ont eu une diminution de leur système immunitaire, donc elles peuvent moins bien se défendre. Une moins bonne nourriture, alimentation, parce que plus on vieillit, plus on discrimine ce que l'on aime. Combien de fois on entend, oui, mais docteur, les tomates, je ne les supporte plus, donc je ne mange plus de tomates ou je ne mange plus de légumes, donc ça se termine. Non, mais ça vous fait rire, mais ça se termine comme ça. Ça se termine par jambon-pâte.
C'est vrai, parce que j'ai eu un père qui, à la fin de sa vie, ne voulait manger que des éclairs au chocolat.
Mais ou des éclairs au chocolat. Jambon-pâte, bilan de l'affaire, avec une mauvaise alimentation, ça veut dire mauvais microbiote intestinal, donc mauvaise défense immunitaire et mauvaise défense en règle générale.
Expliquez-moi, docteur, ce qu'est un microbiote, très précisément.
Microbiote, c'est la vie qu'il y a dans nos intestins, par exemple, le microbiote colique, c'est-à-dire il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des levures, il y a des champignons, il y a tout, c'est mélangé, et ça vit en bonne intelligence pour maintenir un équilibre, dans notre intestin pour nous permettre de digérer correctement. Et ce microbiote, il est directement en relation avec ce que l'on lui apporte comme aliment. Déjà, comment les aliments arrivent, c'est classique, il faut mastiquer, saliver, etc., etc. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on apprend à la maternelle aux enfants. Hein. Mais après, par exemple, si on mange une alimentation, sans fibres, on va complètement déstructurer notre microbiote. Hein, et puis, en déstructurant notre microbiote, on va favoriser la survenue de nombreuses pathologies. Hein, puisque le butyrate, c'est fondamental, c'est-à-dire c'est ce qui permet de digérer les fibres longues. Hein, et donc, c'est ce qui nous permet de stimuler et de maintenir notre
les fibres,
santé. Les fibres, c'est tous les légumes.
C'est les légumes ?
Tous les légumes à fibres, oui, tout à fait. Voilà. Il ne faut pas confondre les légumes et les fruits, parce que, par exemple, une tomate, ce n'est pas un légume à fibres. Il y a des fibres dans la tomate.
Donc, c'est-à-dire que si on ne mange pas beaucoup de fibres, ou très peu, on peut mettre... en danger
notre microbiote,
et entraîner des problèmes digestifs graves.
Graves, oui, bien sûr, parce que ça favorise après le syndrome métabolique, Hein, syndrome métabolique, c'est quoi ? C'est hypertension, diabète, surpoids ou obésité. Hein, et ça favorise quoi ? Ben, les pathologies cardiaques, les pathologies immunitaires, etc.
Pourquoi
etc.
vous me regardez comme ça, docteur ?
parce que vous êtes...
J'ai un vent de panique là, qui parcourt le corps.
Vous êtes un humain et j'aime tous les humains. Donc voilà, et c'est, je parlais comme ça aussi à mes patients pour essayer de faire comprendre comment ça se passe dans la vraie vie. La vraie vie, c'est ça.
Mais vous avez mille fois raison, docteur, mais c'est vrai que ce que vous dites, ça fait écho à plein de gens parce que...
Ben oui.
Il y en a beaucoup qui bouffent des trucs quand même assez merdiques. Ah oui.
Hein, bah la dire, malbouffe, hein. C'est
entre,
ça.
Entre les fast-food ou avec un taux de sucre absolument incroyable. Ouais. Et surtout le fait que les légumes, ouais. C'est un énorme sujet.
Ouais.
C'est un énorme sujet d'équilibre. Est-ce que ça fait partie de l'éducation, docteur ?
Ah bah ça devrait faire partie de l'éducation
vous êtes d'accord
dès la maternelle.
Bah oui.
On devrait apprendre.
Comme l'usage de l'habitat.
Il y a eu une très belle étude faite au début des années 2000. Dans deux villes du Nord, Fleurbé et Laventie. Et les médecins qui ont mis ça en place, et ils ont pris un groupe d'enfants dès la maternelle et ils ont appris à manger et à choisir l'alimentation à la cantine. Et ils se sont aperçus que 10 ans après, c'était les enfants qui faisaient les courses avec les mamans puis qui demandaient tel ou tel élément favorable plutôt que les défavorables. Donc ça veut dire que si on faisait ça dans toutes les écoles primaires, apprendre ce qu'il faut manger, comment il faut le manger et sous quelles conditions, on améliorerait grandement. Et en plus, si on insistait pour avoir une alimentation riche nutritionnellement et pauvre en résidus toxiques, c'est-à-dire une alimentation bio, eh bien, on aurait une amélioration colossale de la santé de la population. Mais on est très loin de ça, parce que je vous rappelle quand même, que là, avec la loi du plomb, Omnibus, on veut, pour l'agriculture, on veut supprimer les normes, réautoriser tous les herbicides et pesticides de toutes sortes, hein, dont les fongicides, qui entraînent des résistances chez mon ami Stéphie, là.
Mais il y a fort à parier que la loi du plomb et du plomb dans l'aile, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets, je vous voyais acquiescer. Je voudrais vous poser une toute dernière question qui est sous forme de conclusion et pour finir sur une bonne note. Je vais commencer avec vous, Gaëtan. Vous savez, moi je veux dire, ça tiendrait qu'à moi, je rentrerai dedans beaucoup plus. Mais effectivement, il faut y aller avec beaucoup de pédagogie, vous le savez. Mais pour ça que les politiques sont extraordinaires sur ces questions, parce qu'ils savent y répondre avec beaucoup de subtilité. Gaëtan, si je devais vous poser cette question de l'usage de l'habitat à l'échelle d'une métropole, vis-à-vis des administrés, avec cette vision à la fois écologique, environnementale, de transition douce d'une ville où il doit normalement faire bon de vivre, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ?
Sur la question de l'habitat, effectivement, comment faire en sorte que le cadre de vie, comment faire en sorte que habiter chez soi soit agréable et en bonne santé. Et je le dis parce que la question climatique et toute la question de l'adaptation aussi au changement climatique, tout ce qui est lié à l'atténuation demain, aussi de l'impact climatique, c'est autour de la santé. C'est vraiment, on l'a dit, c'est comment agir sur la santé. D'un point de vue très urbain, on fait en sorte d'interdire désormais qu'il puisse y avoir des logements qui soient construits sur les zones qui sont identifiées telles que à forte exposition au bruit et à l'air, notamment autour de la rocade. Ça, clairement, lorsqu'il y a un petit peu plus à l'extérieur de ces zones, comment il doit y avoir des normes aussi supplémentaires, comment on fait en sorte de demander aux personnes, aux constructions, que ce soit des établissements publics ou alors s'il y a des promoteurs, d'aller un petit peu au-delà, mais comment on fait en sorte dans les réhabilitations aussi, et pour faire le twist avec dans les réhabilitations, lorsqu'on accompagne pour la question climatique, forcément une réhabilitation aussi qui se fait avec une meilleure isolation, généralement la VMC aussi est reprise. Donc ça participe clairement, tous les enjeux, tous l'accompagnement pour améliorer l'habitat que l'on peut mettre en œuvre, que ce soit de manière individuelle, ça participe à améliorer le cadre de vie. Dans le plan d'urbanisme, ça participe à améliorer le cadre de vie. Et tout bêtement, on le redit, planter des arbres, réduire, augmenter le nombre de transports collectifs. On va avoir la troisième ligne de métro. On va économiser un nombre de tonnes de carbone, de CO2 qui va être énorme. C'est au bénéfice de tout le monde et du cadre de vie des Toulousains, très clairement.
Bien sûr. Merci beaucoup, Gaëtan. Stéphie, vous, Stéphie Rucki, vous en tant que scientifique, justement, votre approche, justement, de cette transformation environnementale. Je vais même aller plus loin. Je pense que c'est carrément une vision nouvelle de l'anthropologie urbaine. Je pense qu'on vit une nouvelle forme d'anthropologie urbaine. De votre point de vue, de la mycologue que vous êtes, scientifique, qu'est-ce que vous dites ?
Alors déjà, on ne reste pas avec du moisi chez soi. Ça, si vraiment on peut... Voilà, si...
Et puis c'est facile à s'en débarrasser. Enfin, quand j'ai facile, non, mais quand j'ai facile... On peut se débarrasser des moisissures en faisant les travaux adéquats.
Oui, c'est ça. C'est déjà, on nettoie.
Vous êtes d'accord que ce n'est pas irréversible ?
Voilà, on nettoie. Si le problème persiste, on se fait aider. Donc, j'ai découvert les activités de Murprotec. Donc, on les contacte.
Vous ne connaissiez pas Murprotec ?
Mais non, je suis de Bourgogne-Franche-Comté. Je ne connaissais pas. Non, mais voilà, on ne reste pas tout seul vis-à-vis de ça. Ce n'est pas normal de vivre avec des moisissures chez soi. Et ça, c'est si on n'a pas de symptômes, on fait vite les choses avant d'avoir des symptômes. Et dès qu'on a des symptômes, il faut absolument consulter des pneumologues, des allergologues qui vont aider à la prise en charge de ces pathologies, mais on ne reste pas avec des moisissures chez soi.
Alors, on ne reste pas avec des moisissures chez soi, on fait soit les études qui conviennent bien et on fait les travaux qui sont adaptés, bien évidemment. Merci Stéphie Rucki. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Et je viens d'apprendre quelque chose, c'est de connaître votre métier. J'avoue très franchement que je ne connaissais pas votre métier, qui me semble essentiel dans l'équilibre urbain. La conclusion est à vous, docteur. Justement, avec cet axe à la fois de dire, voilà, les choses changent, et il faut qu'elles changent dans le bon sens, au-delà des mots, ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que vous diriez justement pour que les choses aillent encore plus vite ?
Pour que les choses aillent plus vite, il faut que nos politiques, adresse à vous, prennent réellement conscience de la problématique. S'ils avaient pris réellement conscience de la problématique, ça serait changé depuis longtemps. Et la conscience, ça ne suffit pas. Après, il faut que cette conscience, elle soit performative, c'est-à-dire que ça se traduise par des effets. Or là, on fait des tests de pollution, etc. On minimise les tests parce que si on fait trop de tests, on va trop trouver de choses. Et donc, on s'accommode de ça. On s'accommode, c'est un domaine que je travaille depuis plus de 20 ans, c'est les pesticides. On s'accommode des pesticides depuis quand même le début du siècle dernier. Hein, quand même, voilà, ça a commencé là. Et on sait très bien qu'ils sont toxiques. Et puis, on continue quand même. Alors même que les pesticides, ça nous fournit une alimentation pauvre nutritionnellement et riche en résidus toxiques. Ça, c'est le premier point. Donc, la performativité, c'est fondamental. Et puis, il faut se rendre compte quand même que ça a un coût social. Et ça a un coût social en termes de toutes ces pathologies qui sont générées, dont je vous ai parlé ce matin. Ça a un coût social, mais ça a aussi un coût en termes de souffrance. J'entends par là qu'il faut faire la différence entre douleur et souffrance. Les patients, ils ont de la douleur quand ils se font opérer. Les jeunes femmes à qui on retire un sein, etc., pour un cancer, ça entraîne de la douleur. Et ça entraîne aussi de la souffrance dans l'entourage. Hein, nombre d'enfants qui ont une maman qui n'a plus de cheveux sur la tête, etc., et qui pleurent le soir, se mettent à plus bien travailler en classe, etc., ont besoin pendant des années d'être suivis psychologiques, même si la maman est sauvée. Vous voyez, tout ça,
bien sûr.
Si on prenait en compte tous ces facteurs-là, financièrement, ce n'est pas soutenable. Et pourtant, on continue à produire du malade et à fabriquer du malade.
J'aime beaucoup cette façon de dire. On continue à produire du malade alors même qu'on pourrait avoir conscience des effets curateurs et de tout ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie des gens.
Eh bien, bien sûr.
Là, je vais vous dire, docteur, il y a une vraie réflexion sur la politique en tant que telle. Je vous voyais, vous aviez envie d'intervenir rapidement.
J'entends que c'était aussi un appel général et je vous invite à venir sur Toulouse où on n'utilise pas de pesticides depuis des années dans le cadre des jardins à Toulouse Métropole et de venir visiter avec moi du côté du Nord Toulouse où on a une serre municipale qui est magnifique et sans utilisation de pesticides. On visitera ensemble, mais j'ai bien entendu le sujet.
Oui,
avec bon, plaisir. Et même bon. Vous.
Alors, moi, je vais vous dire, je vais y aller avec. Je vais y aller avec Stéphie. Comme on dit docteur, non ? Vous êtes un docteur, vous ?
Oui, alors j'ai un doctorat, mais de science, mais on dit docteur aussi.
Oui, docteur. Donc je vais avec le docteur Rocky, justement, parce que ça va m'indiquer les bons trucs à manger. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Ça fait un peu flipper quand même, tout ça,
je vous le dis. Bon.
C'était un vrai plaisir de vous voir pour cette première, et vous reviendrez. Je me permettrai de vous inviter régulièrement sur le plateau. Merci Stéphie Rocky, je rappelle que vous êtes un mycologue, un métier méconnu, mais essentiel, bien évidemment. C'est l'étude des... comment on dit, étude des champignons, on ne peut pas dire comme ça, étude des champignons, bien évidemment, et pas ceux forcément... qui nous plaisent le plus, voilà. Merci à vous Gaëtan Cognard, je rappelle que vous êtes conseiller municipal délégué à l'écologie, à la qualité de l'air et à la ville de Toulouse, également vice-président de la métropole en charge de l'écologie. Mes amitiés à Jean-Luc Moudin, qui est bravo pour ce que vous faites, changez rien s'il vous plaît. Voilà. Merci également au docteur Spirou devant de moi, voilà, merci docteur, vous êtes chercheur et médecin en la matière. Il faut qu'on continue à aller sur les plateaux, justement, qu'on vous entende, c'est pétri de bon sens, justement, pour que les choses s'améliorent. Voilà, on va parler maintenant d'un nouveau sujet avec des professionnels également de l'immobilier, sur les axes de prévention, faire le lien entre le logement et la qualité de l'air intérieur. C'est tout de suite après ça, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Eh bien, de retour sur notre plateau pour cette deuxième partie, justement, d'émission, où on a pris le temps de bien écouter les praticiens, le docteur Spirou, qui nous a expliqué, effectivement, comment agir. Une mycologue, vous savez, je ne sais pas si vous saviez, mais une mycologue étude des champignons et également la vue de l'homme politique. Merci, justement, à nos intervenants. On va parler maintenant, d'ailleurs, d'un sujet très pratico-pratique, hein, parce que derrière les statistiques, il y a des appartements, il y a des maisons, des copropriétés, des habitants qui vivent avec parfois de l'humidité sans mesurer les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Moi, je vous propose une table ronde, les amis, autour des problématiques de la qualité de l'air, en le liant au logement et particulièrement en Occitanie, avec des professionnels qui sont avec nous. Un professionnel du logement et de l'immobilier en général qui était avec nous, c'est Sébastien Bonnet. Bonjour Sébastien. Alors Sébastien, vous êtes président de la région Toulouse. Alors on dit Occitanie, on dit Toulouse, comment on... 31.
Alors, effectivement, Garonne-Gascogne, parce que Garonne-Gascogne, ça fait un bassin assez large. Et on approche vers l'Occitanie, on est encore en Midi-Pyrénées. On a une vieille appellation qui sera bientôt fusionnée avec Languedoc-Roussillon.
Alors, vous étiez également, vous avez pris vos fonctions, mais vous étiez également président de la FNAIM à Toulouse. Vous êtes surtout professionnel de l'immobilier, puisque vous êtes un élu syndical. Vous êtes très engagé sur le plan syndical, mais vous maîtrisez donc les métiers de la copropriété, de la gestion et du syndic de copropriété. C'est important de vous avoir, d'avoir aussi votre regard sur cette problématique essentielle, pour pas dire vitale, la santé dans l'habitat. Également avec nous un grand professionnel, un expert de Murprotec sur cette question-là, c'est Marc Berthemez, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Marc ?
Très bien, merci.
Je suis ravi aussi de nous faire justement bénéficier de votre expérience très pratico-pratique. Je vous propose vraiment quelque chose de très pratique pour pouvoir justement dire aux Français qui nous écoutent et aux Françaises qui nous écoutent qu'il n'est pas jamais trop tard de réparer, que ce soit en copropriété comme en logement individuel. Bonjour Marion Retaux.
Bonjour.
On dit Retaux ?
Retaux.
Retaux. Vous êtes responsable prévention et promotion de la santé à la Mutualité Française Occitanie.
C'est ça.
Merci d'être avec nous. Alors je vais tousser parce que forcément, avec ces changements de climat, c'est fou, hein. Dès qu'il y a un changement de climat, et pour vous dire à quel point la respiration est importante, toute personne, et il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaissent, avec des variations de température, avec une climatisation intérieure, dès qu'on sort à l'extérieur, les chocs thermiques peuvent avoir des effets délétères, et on le sait encore plus dans l'habitat. Une question globale, je vais commencer par vous, Marc. En Occitanie, on a un vieillissement du parc immobilier. C'est un des aspects, vous nous direz également, Sébastien, vous voulez bien, votre avis sur la question. On le voit. Mais un joli parc immobilier, avec, je prends bien sûr Toulouse, avec un urbanisme très typique, qui génère plus, par rapport au mode de construction, au vieillissement des matériaux, de l'humidité dans les logements, avec des enjeux majeurs de rénovation énergétique. La question de la qualité de l'air intérieur va devenir, et devient d'ailleurs, de plus en plus préoccupante. Soyons clairs. Selon vous, pourquoi le logement est-il aujourd'hui un enjeu central de santé publique et de qualité de vie ? Je vais commencer par vous, Marc.
Tout simplement parce qu'on passe beaucoup plus de temps qu'auparavant déjà dans nos logements. Ces logements sont de plus en plus isolés. même au niveau location, hein, c'est ce que demandent les normes maintenant, que ces logements soient très isolés. Et on retrouve des problématiques de condensation et de remontée capillaire, puisque les logements sont anciens. Mais en isolant, ça fait ressortir encore plus ces phénomènes et les problèmes de santé qui suivent derrière, même si les gens directement ne se rendent pas compte. Ce n'est pas seulement des problèmes d'allergie ou de toux, ça peut être des problèmes de douleurs musculaires, des problèmes de sensation aussi, de fraîcheur, puisque l'humidité dans l'air va donner ces sensations de fraîcheur. Voilà, c'est des problèmes multifactoriels qu'on retrouve avec les changements climatiques et les changements qu'on a sur la.
Est-ce qu'on vit une accélération justement?
Ah oui.
Est-ce que là on voit avec. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais on est d'accord qu'il y a quand même des changements assez brutaux hein, de climat, ouais. Plus qu'avant.
Ouais, surtout cette année, on peut dire. Oui. Moi, ça fait un petit peu plus de 16 ans que je suis chez Meurprotec à Toulouse. Et ces deux dernières années, essentiellement cette année, j'ai vu énormément de demandes supplémentaires.
Bien sûr.
De gens qui se retrouvent démunis. Beaucoup me disaient qu'ils avaient des petits problèmes auparavant, mais ces deux dernières années, ça a vraiment augmenté.
Oui, et je ne vous parle pas des épisodes pluvieux qui sont aussi très, très délétères. Marion Reto, pourquoi justement c'est aussi important? Et puis c'est vrai que vous, dans votre métier, en plus, vous êtes toujours en prévention, en pédagogie. Pourquoi c'est devenu vraiment, on le sent, hein, un enjeu central de santé publique dans la qualité de vie pour le logement, avec le logement?
Mais on le sait, le logement, on l'a vu avec les tables rondes précédentes sur la qualité de l'air intérieur et sur l'habitat et tous les effets que ça peut avoir sur la santé avec les conditions matérielles du logement. Donc on a vu les moisissures, on a vu l'humidité. On n'a pas forcément beaucoup parlé de tous les produits chimiques aussi qui peuvent être utilisés dans les logements. Mais voilà, on peut penser aux parfums d'ambiance, aux produits ménagers, etc. qui peuvent avoir un effet.
Un parfum d'ambiance, c'est pas forcément...
pas forcément la meilleure idée qui soit, en effet, pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Il y a cet aspect, du coup, sur des développements de pathologies respiratoires, d'asthme, de certains cancers aussi, selon certains cas. Et je pense qu'il ne faut pas oublier l'aspect santé mentale et bien-être aussi sur les populations. On a, voilà, des fois certains logements qui peuvent être des logements insalubres ou des logements dans lesquels, par exemple, on peut avoir beaucoup de promiscuité qui peuvent aussi amener parfois à générer du stress.
Voilà. Des tout petits logements, le bruit.
Exactement. On n'a pas aussi parlé du bruit qui est aussi.
Le bruit, ça devient.
Aussi dans les causes de pollution. Puis je pense qu'il faut aussi voir l'habitat dans un sens plus large et pas se concentrer uniquement sur le logement, mais plus prendre en compte l'environnement de vie et aussi est-ce que les personnes ont facilement accès au transport, facilement accès aux soins, facilement accès à des espaces verts aussi. Donc voilà, le logement, c'est vraiment...
Vous avez mille fois raison. J'aime beaucoup cette façon de présenter. Le logement, c'est pas que ça, c'est aussi... Le métro qui est en bas, c'est le tissu commerçant, c'est la vitalité, où il y a ou il n'y a pas. C'est intéressant parce que vous liez à la fois de manière intérieure et extérieure tous les éléments contingents qui facilitent ou compliquent la vie des gens. Et il y a une chose sur laquelle, moi, d'ailleurs, c'est un combat que je mène à titre personnel, c'est la promiscuité dans l'habitat. Il n'y a pas pire que d'être étriqué dans un habitat petit, parce que ça réduit même votre schéma de pensée quelque part. J'aime beaucoup cette idée. Sébastien Benet.
Malheureusement, l'usage du logement est un facteur très important. Pour ceux qui en ont, j'aimerais rappeler malgré tout que certaines personnes aujourd'hui n'ont pas de logement et je pense vivent des conditions sanitaires encore pires. Donc là, on s'intéresse à la frange qui a heureusement un logement qui n'est pas toujours adapté au modèle, à la famille, et on a des usages qui sont en évolution constante et forte, notamment avec le télétravail, avec donc la promiscuité dans certaines conditions, puisque les étudiants ne trouvent pas de logement. Par chance, il y a des solutions, l'intergénérationnel qui pourrait arriver. Malheureusement, ce n'est que des effets provisoires et ponctuels, et qui sont plutôt dictés par les circonstances économiques de chacun. Le logement, effectivement, c'est souvent, et notamment en copropriété, cette bulle de vide dans un bâti, qu'il faut savoir entretenir, au même titre que son corps, faire plutôt du préventif. Je crois que c'est essentiel à la fois pour la santé, mais la santé du bâti également. Donc nous, les professionnels de l'immobilier, on est là pour ça, pour proposer un entretien des logements qui bénéficiera à ceux qui les occupent. Et avant tout ça, effectivement, d'adapter le logement aux besoins. Malheureusement, aujourd'hui, des personnes âgées vivent dans de grands logements anciens parce que c'est leur parcours de vie qui les a amenés là, alors qu'on ne peut pas loger certains étudiants. Il y a une vraie crise du logement qui vient avec cette crise sanitaire. Et depuis le Covid, depuis 2020, c'est pour ça qu'on a cette table ronde aujourd'hui, personne ne néglige l'invisible. Ce paramètre qu'on ne voit pas devient déterminant, ce qui est quand même assez fou.
J'aime beaucoup cette idée, encore une fois, d'intégrer cette notion d'invisibilité, parce que on peut être une personne peut être invisible. Il y a des personnes qui sont sans domicile fixe à Paris, par exemple, et on sait qu'à Paris, je peux vous donner un chiffre, il y a 3000 enfants de moins de 5 ans qui vivent dehors tous les jours. Enfin, c'est terrible. Donc on voit bien que, quelque part, ces facteurs, à la fois sur la santé mentale, vous rappeliez, et la santé physique, bien évidemment, Marc, sur lequel vous agissez, parce que vous réalisez chaque année des milliers de diagnostics liés à l'invisibilité. Mais impressionnant, hein. C'est très... Combien plus de 30 000 ? Plus de 30 000.
Au niveau national.
Et si on devait prendre la statistique globale, vous pourriez même en faire 100 000. Enfin, je veux dire, c'est juste
sans énorme. Problème. Et je rebondis en fait sur le fait que ces derniers temps, j'ai vu aussi des professionnels de l'immobilier venir vers nous, ce qui n'était pas le cas auparavant. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience aussi de certains professionnels de l'immobilier par rapport à ces problématiques.
Absolument. D'ailleurs, j'en profite, si vous permettez, si c'est possible, de faire mention. Vous avez conclu un partenariat. Oui. Avec la FNIM, qui est le plus grand syndicat immobilier français, sur cette question, ce qui démontre l'intérêt des professionnels sur la question. Justement, avec ces milliers de diagnostics que vous faites, Marc, c'est quoi aujourd'hui les problèmes les plus fréquents que vous rencontrez dans le logement ?
Alors, mais vraiment. On retrouve des problèmes de condensation, on en a parlé, c'est lié...
Alors c'est quoi la condensation, pour qu'on explique ? Comment ça se génère ?
La condensation, c'est trop d'humidité dans l'air qui stagne. Voilà. Et ces problèmes vont générer derrière des problèmes plus ou moins visibles, puisque quand on intervient, ce qu'on remarque, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et mon travail, c'est de chercher d'où peut venir le problème. Et très souvent, je fais découvrir aux habitants des choses qu'ils ne voyaient pas du tout. Ça peut être le dessous du lit qui est moisi, l'arrière des meubles, alors qu'ils m'ont appelé pour une tache sur un mur. Voilà. Et les conséquences sont assez importantes, puisque la tache sur un mur, on peut se dire on nettoie et puis ça part avec un problème de condensation. Quand vous avez un matelas qui est moisi, ça ne se nettoie pas, quoi, hein, ça se change.
C'est clair.
Voilà,
c'est
mais
clair.
Ça peut aussi entraîner des problèmes de perturbation de sommeil, de fatigue, enfin, tout ce que j'ai découvert au fur et à mesure du temps. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour continuer à comprendre ces problèmes.
Marc, j'ai une question à vous poser. En présence d'un professionnel et d'une pédagogue, isolation, c'est le sujet.
Oui.
Rénovation énergétique, vous êtes d'accord. Et étanchéité. Nous, on a été formés à la surisolation, quelque part.
Oui.
À rendre étanches nos fenêtres. Parce que c'était un vrai sujet. D'ailleurs, les assureurs faisaient ça. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on faisait exactement cela. Est-ce que, et c'est un paradoxe, hein, vous me répondez si c'est le cas, si j'ai une bêtise, vous me le dites. Est-ce que parfois, il n'y a pas un effet délétère à vouloir trop, entre guillemets, rénover, axer le développement ou le soin du bâti avec de la performance énergétique au détriment de la qualité de l'air, donc de la santé ?
Exactement, Sylvain. Travaux d'isolation, c'est un tout. On ne peut pas se contenter de faire de l'isolation sans prévenir les risques par rapport au renouvellement d'air qu'il pourrait y avoir et les conséquences de ce manque de renouvellement d'air. Donc, en ayant fait des études justement en génie climatique, l'isolation, c'est parfait pour la température et le phonique. Par contre, ça peut entraîner ou augmenter des problèmes qui étaient peut-être présents mais qu'on ne voyait pas auparavant. Et qui deviennent, je prends un exemple toujours très simple, dans une chambre, vous avez avec un simple vitrage de l'eau qui va couler sur la vitre l'hiver, et puis vous mettez un double vitrage, dès le lendemain, il n'y a plus une seule goutte sur la vitre. Par contre, dans les mois qui suivent, vous pouvez avoir des traces de moisissures à des endroits où vous n'en avez jamais eu auparavant.
D'accord.
Avec la même condition de vie, dans le même habitat.
C'est l'effet Tupperware.
Exactement.
Fait. C'est-à-dire que vous isolez, et du coup vous enfermez aussi.
Exactement.
Il y a une respiration du bâtiment, comme la respiration de notre corps. On l'a entendu tout à l'heure avec des brillants scientifiques. Et si vous ne permettez plus au bâtiment de respirer, donc si vous l'enfermez, vous enfermez à l'intérieur également.
C'est ce que Manuel Wojciechowski, expert chez Meurprotec, appelle aussi l'effet Kawai.
Oui, moi c'est cocotte minute.
C'est toujours je veux dire, et donc c'est dingue, Marion, quand on voit que pendant des années, on a été porteur de l'idée qu'il fallait rénover, étanchéifier, protéger, etc. Et que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas tenu compte de ces éléments. Est-ce que dans vos actions de prévention, vous en parlez de ça?
Oui, on en parle. Après, c'est sûr que nous, nos objectifs sur nos actions de prévention, c'est que les populations puissent devenir actrices de leur santé. Donc, on sait qu'il y a des choses sur lesquelles elles n'ont pas forcément la main comme elles aimeraient l'avoir. Donc, on essaye de revenir aussi à des conseils de base pour alléger tout ça. Et le conseil de base, ça va être l'aération. Et voilà, pour contrebalancer
un petit peu. Quand vous leur dites l'aération, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites qu'il faudrait aérer des deux côtés. Parce que quand on ventile, une chose que j'ai appris avec vous d'ailleurs, c'est que moi, à l'époque, moi, je ventilais, tu sais, tu ouvrais la fenêtre. Et alors que non, il faut l'ouvrir des deux côtés pour créer un système de ventilation, qu'il fallait détalonner une porte parce que l'air, c'est plutôt sain. Nous, on disait, c'est pas bien quand l'air, elle passe. Tu sais, là, c'est plutôt sain. Et donc, il fallait enlever tous les boudins des portes, bien évidemment.
Oui, après, on essaye de rester le plus simple possible. Voilà, on a des populations, des fois, pour qui juste le fait d'aérer, c'est un message qui est compliqué à comprendre parce que qui dit aérer dit l'hiver, je chauffe et je vais chauffer dehors, donc j'ai pas envie d'aérer. Donc, il y a aussi des choses à prendre en compte. Donc, on essaye vraiment de leur faire comprendre l'intérêt de l'aération.
Expliquer à des gens en plein hiver, quand il fait 3 degrés 2, ou 5 degrés, qu'il faut ouvrir les fenêtres de la chambre. Pour ventiler un peu, au minimum quoi, 10 minutes par jour.
Oui, 10 minutes. En fait, il n'y a pas vraiment de recette miracle non plus. Chacun fait un peu comme il peut. Et ensuite, l'idée, c'est aussi que les gens prennent conscience de l'importance que ça a. Bien sûr. Ensuite, qu'ils améliorent petit à petit leur pratique. Mais déjà, le fait d'aérer, et on en parlait tout à l'heure aussi, de faire vérifier ces systèmes de ventilation, de ne pas boucher les bouches d'aération. Enfin voilà, c'est des conseils assez simples qui sont du coup peu coûteux pour eux puisque c'est juste des bonnes pratiques à prendre. Et on essaye un petit peu de faire contrebalancer toutes ces problématiques.
Une question pour vous. Vous êtes toulousaine ou...
Je savais qu'on allait me faire une petite remarque
sur
l'accent.
J'aime beaucoup l'accent. Non, parce que j'hésitais entre Toulouse et Montauban.
Pas vraie toulousaine, mais toulousaine d'adoption.
Ah d'accord, quand même, d'accord. Parce qu'à Montauban, il y a... C'était pour mettre un peu de légèreté. Sébastien, les professionnels de l'immobilier aujourd'hui, est-ce qu'ils voient très concrètement émerger des vraies demandes autour de la qualité de l'air? Alors, je vais peut-être être basique. Aujourd'hui, je pense que les gens, ce qu'ils veulent, c'est être logés. Donc, pas non plus exagérer, ils veulent être logés, trouver un logement. Mais est-ce que la question, je ne vais pas dire de la qualité de l'air, mais du côté sain dans l'habitat, bien-être, c'est une demande ou pas du tout, vraiment, dans l'accès au logement?
Très clairement, l'environnement dans lequel se trouve le logement, je disais tout à l'heure, finalement, on achète une bulle de vide, en copropriété notamment. Si on achète une maison, on a un petit jardin, on est en recherche...
Ils vont pas le sentir, les clients, ou pas?
De bien-être. Il y a une vraie tendance au bien-être.
D'accord.
Et je pense que le bien-être est une combinaison de facteurs. On l'a dit, et notamment aujourd'hui de prise en compte de facteurs invisibles. L'air, son. Vous ne voulez pas être à côté d'une rocade ou d'une route ou sous un couloir aérien.
Et quand c'est l'air, c'est quoi? Ils disent l'air...
Et en fait, c'est des critères qui ne sont pas forcément, en plus, mis en avant. Ils sont perçus. Et clairement, tous les sujets dont on est en train de parler, c'était des repoussoirs. Une tache d'humidité, je m'enfuis. Un ancien dégât des eaux, même s'il a été traité, non recouvert, je m'enfuis. C'était des facteurs de fuite.
Du salpêtre.
Voilà, qui écartaient la manière dont vous envisagez de vous projeter. Parce que c'est un projet, et on se projette dans le temps, dans un logement, et c'est difficile de se projeter si au moment où on arrive, ça n'est pas sain. Et aujourd'hui, où le bien-être, et je ne vais même pas parler du feng shui, de l'occupation du logement, la manière, l'usage et la manière d'habiter, ça a été dit, a évolué. Et aujourd'hui, on veut des grands espaces. On veut respirer. On veut, au-delà de l'usage, qui était effectivement de l'économique. Avant, on économisait. On économisait l'espace, on économisait la chaleur. Aujourd'hui, on veut du traversant, on veut de l'air, quand on peut se le permettre. Effectivement,
une chambre, elle fait combien de mètres carrés en moyenne à Toulouse?
Elle fait au moins 9 mètres carrés. Mais elle fait...
Il faut qu'elle fasse 9 mètres carrés.
Il faut qu'elle fasse 9 mètres carrés, mais parfois elle fait moins. et on chasse. Et alors là, les professionnels sont très engagés sur l'habitat digne et l'habitat conforme, là où encore plus de la moitié du parc est géré par des particuliers. Ouais, ouais. Voilà. Et on loge aujourd'hui, et il faut le dire.
Vous envoyez, vous, des taudis quand même.
Oui.
Et les gens, ils prennent ça pour leur 8e merveille du monde.
C'est ça. Et on a des.
Et vous arrivez à les.
Des vendeurs de sommeil, il faut quand même les dénoncer, parce que eux logent des gens en souplex, en sous-sol.
C'est un délit pénal, ça.
Oui, mais on ne contrôle pas assez les particuliers qui gèrent tout seuls. On y travaille avec la commune.
C'est un vrai sujet. C'est important ce que vous dites. Alors justement, dans les copropriétés anciennes, il y a un vrai sujet, ça vous le savez déjà, hein, copropriétés anciennes, l'humidité, c'est une tannée, c'est une galère. Ouais. Il y a les remontées capillaires des caves, dans l'habitat, Marc.
Bien sûr, et des caves qui se retrouvent maintenant habitées, alors qu'à la base, elles n'étaient pas destinées à
Honfleur. À Honfleur, il y a des gros sujets. Je ne sais pas, vous avez vu la télévision à Honfleur. Nous, moi, j'ai la chance d'avoir une petite maison à côté. À Honfleur, il y a des bâtiments qui sont en fragilité. Parce qu'en fait, il y a eu justement le fait de ne pas avoir été cuvelé à temps, c'est-à-dire de mettre en place une étanchéité au niveau de l'eau, a fait qu'elle s'est désagrégée. L'humidité devient vraiment un vrai sujet. Et ce qui est très intéressant, à observer, c'est qu'elle est proportionnelle au vieillissement du parc immobilier. Et on sait, et je le parle sous le contrôle de Sébastien, qu'en 2050, 80% de ce qui nous entoure est déjà là, bâti. Donc il faudra faire avec. Question.
On est un
peu, vous, Sébastien, on fait quoi ?
On est un peu pris en étau. On parle de réchauffement, à tort, parce que c'est un dérèglement climatique. Et c'est pire. Parce qu'en fait, ça fait des phénomènes, aujourd'hui, de canicule en mai.
Ouais, et de froid.
Très froid.
Oui.
D'eau, devenue d'eau qui ne sont pas là. Une urbanisation, c'est pour ça que le ZAN avait été pointé comme une solution, mais qui crée d'autres problématiques. On a urbanisé toute la zone. On a végétalisé avec des arbres mâles et qui envoient des pollens. Aujourd'hui, cette pollution des pollens aussi pique pas que les yeux de chacun. Donc, on est pris entre ce dérèglement climatique qui nous impose un volume d'effort et une augmentation des coûts de construction d'une part et des coûts de rénovation. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Des monogestes. On a aidé, on l'a dit tout à l'heure, si vous changez uniquement votre double vitrage, déjà c'est pas amorti d'un point de vue économique, mais c'est très confortable, mais ça pourra engendrer d'autres problématiques. Donc la rénovation globale des copropriétés, accompagnée par les banques et par l'État, avec une politique réelle d'accompagnement et pas punitive, pas des interdictions, on l'a vu avec le diagnostic de performance énergétique notamment, il faut réellement, et je pense que c'est ce que vous faites, de la pédagogie à la fois dans les usages, mais aussi dans la rénovation, dans l'accompagnement. Et nous, on le fait aussi pour éclairer quelqu'un qui va acheter son logement au maximum de sa capacité financière. Il faut qu'on prévoie un destin sur quelques années où on l'entretient, où on a une chambre supplémentaire s'il y a des enfants qui arrivent, où on adapte donc le logement à l'usage et à l'entretien de ce logement, et notamment en copropriété, parce que sinon, c'est un exercice de démocratie où on dit stop, où on dit on fait un minima. On a trop fait du curatif, ça fuit, je répare, j'appelle Murprotec pour venir réparer ce qui est apparent, alors que je n'ai pas entretenu. Et nous, professionnels, on incite toutes les copropriétés, et même en gestion locative, nos propriétaires bailleurs, à prévoir et à anticiper l'entretien du bâti pour qu'il continue d'être appréciable et à permettre un cadre de vie agréable à tous ceux qui l'occupent. Ça vaut aussi bien en gestion locative qu'en copropriété. Et comme je disais, dans le cas de la transaction, on en parlait tout à l'heure, c'est souvent là qu'on appelle, mais c'est presque trop tard parce que vous allez perdre 6 mois dans la vente de votre bien si vous, c'est au moment où il est vide que vous contactez un professionnel.
On arrive à la fin de l'émission. Je voudrais faire un dernier tour justement avec vous trois. Marion, est-ce qu'il faut davantage investir dans la prévention que dans la réparation des conséquences sanitaires ?
Bien évidemment, je vais répondre que oui. Le positionnement de la mutualité française...
Même économiquement, c'est sain de prévenir, parce que c'est moins de sujets. Ce que disait le docteur Spirou tout à l'heure devant de moi, il disait, en fait, on est sur un système à produire du malade. Non mais, c'est la vision du médecin, vous voyez, à se dire. Parce que, in fine, c'est un coût financier pour la société qui est pas simple du tout. La prévention, même si dans l'idéal on n'a pas une philosophie débordante, on peut se dire que d'un point de vue économique, c'est toujours sain de prévenir parce que ça réduit le risque financier.
Tout à fait. Ça réduit le risque financier et surtout, ça préserve la santé des populations. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi garder en tête. Bien sûr, le positionnement de la Mutualité française, c'est vraiment de dire que la prévention doit devenir une priorité pour les santé, enfin, les politiques de santé publique. On essaye, nous, au niveau de la Mutualité française, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, la santé environnementale, de façon générale, est vraiment une de nos priorités. On parlait tout à l'heure avec les intervenants précédents des visites à domicile de CME qui sont pas forcément très développés sur la région Occitanie. Alors, je suis ravie de vous annoncer qu'on a obtenu un financement de l'Agence régionale de santé pour expérimenter sur le département des Hautes-Pyrénées à partir de cette année, donc avec notamment un dispositif de présentation du métier de CMEI pour aussi inciter les médecins prescripteurs à pouvoir...
Ça va faire plaisir à Bruno Tudan.
Voilà, pour pouvoir prescrire ces visites à domicile et puis aussi d'avoir un financement pour réaliser des visites à domicile donc sur 2026 et 2027. Et on
espère... Ces visites, en général, sont prises en charge par les mutuelles ?
Alors là, elles seront prises en charge du coup par l'Agence régionale de santé Occitanie. Donc on espère que ça pourrait être développé sur d'autres départements de la région ensuite. Et ensuite, on a aussi d'autres actions qui sont plus destinées, nous, sur la santé environnementale et la qualité de l'air intérieur pour les plus petits, parce qu'il ne faut pas oublier que la période des 1000 premiers jours, donc de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, est une période cruciale pour le développement de la santé des individus. Et donc, on a aussi beaucoup d'actions en ce sens, de formation et de sensibilisation sur les professionnels de santé et les professionnels de la petite enfance, pour que ces enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles. Et c'est toujours ça de fait, mais c'est jamais assez. Donc, bien sûr, il faut investir davantage sur la prévention. Oui.
C'est très clair. Justement, pour bien que l'on conclure, si vous deviez, vous, Marc, de votre point de vue également, identifier une priorité que vous mettriez en œuvre dans les prochaines années, semaines, mois, pour améliorer durablement la qualité de l'air dans les logements en Occitanie, en particulier, vous feriez quoi ?
Déjà, le premier conseil, c'est n'attendez pas. N'attendez pas. On pense souvent que c'est passager. On nettoie, ça part. Puis on attend que ça revienne avant de faire quelque chose.
Bah oui, bien sûr.
Donc, n'attendez pas.
Vous nous aviez dit chez vous qu'il faut, entre la prise de conscience, la connaissance et les travaux, il peut se passer 7-8 ans.
Ah oui, mais c'est incroyable. Des gens vont me dire qu'ils ont jeté déjà des vêtements. C'est déjà un signe. Quand vous avez des vêtements qui arrivent à moisir à un tel point, pourquoi attendre ? Parce que ce que vous voyez sur votre vêtement, moi j'ai l'occasion de mettre à la vue de tout le monde ce qu'on ne voit peut-être pas. On a des outils performants pour faire ressortir la moisissure et les gens sont toujours très étonnés de tout ça. Donc n'attendez pas. Je dis toujours, dans un habitat, on ne meurt pas de froid. On peut mourir de la moisissure.
C'est très clair. C'est très clair. Ça, c'est le sens de la formule. Vous passez de la radio. Merci. Juste un mot. Vraiment un mot. Un seul mot. Justement, pour vous, en tant que professionnel de l'immobilier, vous, en tant qu'expert humidité et en matière de prévention, vous également, vous, un mot qui serait un peu un slogan. Vous prononceriez quel mot, Sébastien ?
Prévenir.
Prévenir.
Entretenir, prévenir, oui.
M'a piqué mon mot.
Voilà. Voilà. Prévenir, pédagogie peut-être, et prévention. Pas mieux, parce que justement, et agir en temps. Un tout dernier mot, vous qui êtes le politique syndical de l'étape et la régionale de l'étape, c'est important justement ces partenariats. Est-ce que les clients y sont sensibles ?
On a un partenariat donc avec Murprotec parce que c'est des professionnels qui justement ont une capacité de diagnostic. On a aussi un partenariat récent avec la Fondation pour la Recherche Médicale, ce qui montre qu'on est aussi dans l'humain et pas uniquement dans le bâti, parce que les deux sont liés, on est tous là, et que ce renouvellement d'air, il ne faut pas qu'on l'ait qu'à la montagne, il nous fait du bien, il fait du bien à l'esprit, il fait du bien à ce que l'on vit. Et donc c'est important qu'on travaille tous ensemble, en fait, main dans la main, c'est ça l'objectif d'un syndicat, c'est de fédérer les bonnes volontés, les regards, de les croiser, comme vous l'avez fait, Sylvain, lors de ces tables rondes, c'est que chacun, avec son expertise, permette à tous d'habiter et de trouver des logements qui sont plus favorables pour tous, je le rappelle.
C'est ce qu'on va tâcher, c'est ce que nous essayons de faire. Voilà, c'est la fin de cette seconde partie. On va faire une petite conclusion rapidement, justement, avec Édouard David et Bruno Tudal pour conclure cet événement. Je voudrais vous remercier tous les trois d'être venus sur le plateau. Merci à Sébastien Benet, président de la FNAIM 31. Donc, on dit la région, c'est
Garonne-Gascogne.
Garonne-Gascogne. J'adore la Gascogne. Garonne-Gascogne. Vous aimez le jazz, vous ?
Également.
Marciac.
Bien sûr. Incontournable.
Vous connaissez le festival de Marciac.
Alors, quand l'air est rempli d'une bonne musique.
Il faut faire le festival de Marciac et la veille, il faut faire une carcassade. Vous savez, les carcasses de canard qu'on mange comme ça avec beaucoup de foie gras, c'est très très bon. Voilà, avec bien sûr des légumes, comme dirait le docteur Spirou, parce qu'il faut quand même pas se favoriser les fibres dans son microbiote. Voilà, merci Marc Berthomès. Merci, c'est la première fois que vous venez sur le plateau.
Ouais,
pour revenir nous voir avec grand grand plaisir, expert pour Murprotec. Murprotec, vous l'avez compris, hein, c'est the place to be. C'est le bon réflexe justement pour réparer les problèmes d'humidité. Un grand merci à vous,
merci
Marion
à vous.
Reto. Vous avez bien passé, vous étiez très bien, vous étiez parfaite. Voilà. Mieux, ce serait de la gourmandise. Voilà, responsable prévention et promotion de la santé à la Mutualité Française. Dans quelques instants, on va se faire une conclusion avec l'ami Édouard David et Bruno Tudal. Et on va se quitter là, pour notre numéro de mai délocalisé, Maison Saine délocalisée, en édition spéciale OICOS, le salon de l'environnement et de la qualité de l'air. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, ici, dans cette émission Maison Saine, numéro de mai, délocalisée ici à Toulouse, à la cité. Alors, pas la cité de l'espace, hein, je précise, mais dans un endroit magnifique, magnifique, parce qu'il est aussi un peu, on va dire, climatisé. Ça nous fait quand même beaucoup de bien, parce qu'il fait quand même très, très chaud. Mais on est dans un endroit magnifique. Salon OICOS, le salon santé, environnement, qualité de l'air, accompagné de Bruno Tudal. Merci Bruno, vous avez organisé d'ailleurs cet événement avec le docteur Papex également. Et bien sûr, l'incontournable Édouard David. Comment ça va Édouard ?
Très bien.
Responsable du pôle d'engagement sociétal et surtout chroniqueur hebdomadaire de la chronique Maison Saine sur Sud Radio. Alors justement, Bruno, quel message vous aimeriez que les visiteurs du salon, OICOS, qui est votre première version, quand même importante symboliquement, retiennent et qu'est-ce qu'on peut retenir véritablement aujourd'hui sur le lien entre l'habitat et la santé.
Ce qui est important, je pense, c'est ce qu'on a voulu faire passer comme message, c'est qu'il existe des solutions locales. Que parfois, on se dit, voilà, la qualité de l'air intérieur, c'est un truc un peu abstrait, il n'y a personne de disponible pour parler de ça parce que les gens sont à Paris, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des entreprises locales, il y a des solutions locales, et il y a tout à fait la possibilité de trouver des gens, que ce soit pour la construction, pour la rénovation, etc., qui soient compétents dans ce domaine-là. L'objectif, c'était ça, de travailler main dans la main avec les autres professionnels.
Alors, vous avez eu une bonne nouvelle hein, tout à l'heure. Marion Reto l'a dit, de la prévention de la Mutualité Française. Elle a obtenu un budget, justement, de l'Agence régionale de santé. Pour vous, les CMEI, vous deviez accueillir ça avec beaucoup de plaisir. Ce serait bien qu'on duplique.
C'était un de mes objectifs.
Si ça marche donc, bien, les autres régions pourraient emboîter le pas.
Oui, alors ça existe dans d'autres régions, mais c'est vrai qu'historiquement, l'Occitanie n'avait pas ce financement-là et ça a toujours été un peu compliqué ici. Donc justement, moi, j'ai aussi organisé ça ici pour qu'on puisse avancer.
Mais c'est une belle victoire.
Voilà. Oui, tout à fait. Moi, je suis ravi.
Alors justement, si je vous demandais à vous, Bruno, quelle est l'urgence absolue dans les prochaines années, les prochaines semaines, les prochains mois sur la santé environnementale, vous diriez quoi ?
Pour moi, c'est surtout de former des professionnels et de monter en compétences de façon générale sur les problématiques des moisissures. Parce que on se rend compte que c'est une question extrêmement compliquée. Moi, je suis en ce moment en discussion avec des spécialistes aux États-Unis, notamment, qui travaillent sur ces questions-là, etc. Et en fait, on voit que le sujet est très complexe et chacun le fait un petit peu dans son coin. Et en fait, on a besoin d'avoir en France des seuils plus clairs sur les moisissures pour dire quand c'est bon, quand c'est pas bon, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on en a parlé en conférence, c'est pas clair, quand c'est dangereux ou pas, et savoir arriver à évaluer le risque pour la santé des patients chez qui on va, puisque Nous, c'est notre travail. On nous dit qu'il faut savoir s'il y a des moisissures, si c'est un danger ou pas. Mais nous, on peut se baser que sur des connaissances scientifiques, d'une part, des études, et d'autre part, sur des mesures qui sont faites dans les logements. Et voilà, aujourd'hui, il y a peu de gens capables de faire ça, quoi.
C'est important ce que vous dites, parce que on ne comprend pas ce qu'on ne connaît pas, et on peut même imaginer que ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Et donc, effectivement, c'est une montée en compétences, une montée en pédagogie. Et finalement, c'est assez multipolaire. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que vous faites là, dans les salons, faire ce que l'on fait là, nous, dans les médias. C'est répéter et répéter. Alors, c'est frustrant parce qu'on ne voit pas tout de suite le résultat. Mais c'est la somme de cette répétition qui fait qu'à un moment donné, ça produit ses effets. La preuve, c'est que l'Agence régionale de santé vous a accordé cette contribution, ce qui démontre que toutes les actions que vous avez faites avant, qui pourraient parfois paraître épuisantes, ont donné quand même leurs fruits. Et donc, c'est important que vous renouveliez, parce que vous comptez renouveler, bien sûr, ce type d'événement.
Oui, bien sûr, on va l'annoncer là.
À Toulouse, toujours ?
Non, ce ne sera pas à Toulouse l'année prochaine, mais on est en train de voir pour l'organiser ailleurs.
Bien sûr. Eh ben, on tâchera de vous accompagner. Édouard,
oui.
Comme d'habitude, on vous pose la question tous les samedis à midi, parce que vous, grâce à Édouard David, les Français savent exactement ce qu'il faut faire de plus en plus le samedi à midi, dans la chronique Maison Saine, bien évidemment. Quel est le conseil que vous donneriez comme ça aux Français pour améliorer, alors vraiment le conseil qui va immédiatement améliorer leurs conditions de vie et la qualité de l'air.
Ouais, Sylvain. Et ben, on ne le dira jamais assez, hein, comme vous l'avez dit, il faut répéter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être attentif à son logement et aux premiers signaux d'alerte. Aujourd'hui, ça passe notamment par de la condensation, une odeur de moisie, ça doit nous mettre la puce à l'oreille à un moment donné, et on doit se poser les bonnes questions. Et à côté de ces signes qui peuvent paraître perceptibles à l'œil nu, être aussi attentif à son état de santé. Ça, c'est un peu plus complexe, mais aujourd'hui, on le sait, c'est documenté. On sait qu'il y a un réel impact sur notre état de santé. Donc, à un moment donné, ce n'est pas normal de se réveiller le matin avec des maux de tête. Ce n'est pas normal de mal dormir. Et tous ces symptômes sont à remettre en cause à un moment donné. Et il faut se questionner sur le fait que, est-ce que ce n'est pas mon logement, à un moment donné, qui est responsable de tout ça? Donc, il faut être attentif, en effet, à son logement et à son état de santé.
Être attentif à son logement, ça, c'est un point important, avec les bonnes mesures curatives. C'est-à-dire les conseils que l'on, même si on ne les connaît pas, il faudrait peut-être aller les chercher. Il y a aujourd'hui d'excellents moyens de savoir comment on peut inverser. Parce que dans ce que vous dites, il y a quand même un élément, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Est-ce qu'on peut le dire ça aux Français, qu'il n'est jamais trop tard ?
Non, comme vous le dites, il y a des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, de toute manière, on arrive à se documenter. Aujourd'hui, il existe des sites tels que Maison Saine, aujourd'hui maison-saine.fr. C'est un site où on va retrouver en effet des paroles d'experts, on va retrouver des tutoriels, on va retrouver tout un tas de ressources justement pour qui ont vocation justement à accompagner les Français dans les bons gestes. Voilà.
Alors justement, vous parlez souvent, je reprends vos mots, d'habitat qui soigne.
C'est ça.
Plutôt que d'habitat qui rend malade.
C'est ça.
C'est ça, finalement, le grand enjeu des années à venir ?
C'est ça. C'est un enjeu majeur pour les prochaines années. On a parlé tout à l'heure de microbiote, d'alimentation. Eh bien, il faut savoir quelque chose, c'est que nos maisons ont également un microbiome. Donc voilà, c'est connu sous le nom microbiome intérieur. Il s'agit d'un écosystème complexe de bactéries, de virus qui se développe justement dans les lieux où nous vivons.
Microbiome.
C'est ça, exactement. Microbiome intérieur. Et donc... aujourd'hui, il faut le penser. Voilà, il faut penser le logement comme un déterminant majeur de notre santé. Donc, un habitat sain, bien ventilé, sans humidité excessive. Voilà, ça améliore le bien-être, le sommeil et donc l'état de santé en général.
Alors, vous ne vous contentez pas de ça également. Vous publiez des tutos, des bonnes mesures. Cette émission, on la retrouve également sur le site de Maison Saine, un site qui a été conçu pour vous, qui est un site d'information et qui est un site gratuit, je précise. Vous pouvez y aller sans aucun problème, visualiser tous les conseils. C'est extrêmement important et ça peut également, alors je paraphrase peut-être un peu, mais également peut-être non seulement améliorer votre santé, mais peut-être même vous sauver la vie dans une certaine mesure. C'est ce que vous faites au quotidien. Je pense que c'est la volonté affichée de Maison Saine, n'est-ce pas, Édouard ?
Exactement. L'objectif, c'est qu'on arrive à embarquer un maximum de personnes. Donc, en effet, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez consulter ce site maison-saine.fr. Vous allez y retrouver tout un tas de belles et bonnes ressources, justement. Parlez-en autour de vous, parce que vous seriez susceptible de sauver une vie aussi,
bien
également.
Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Bruno Todal. Je rappelle que vous êtes conseiller médical en environnement intérieur, un métier qui finalement n'était pas évident au début, puisqu'il a à peine 30 ans, qui est aujourd'hui, à mon avis, va connaître de belles années d'efforts, et c'est nécessaire, puisque nous avons besoin de vous. Merci pour justement avoir réalisé ce salon OICOS 2026, ici à Toulouse, à la
Merci Cité. À vous.
Et on a pris beaucoup de plaisir, avec toute l'équipe éditoriale, à délocaliser notre mission Maison Saine, ici, en direct de la Cité. On a compris, bien sûr, qu'aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur n'est plus un sujet secondaire, elle est majeure, elle touche directement notre santé, notre confort de vie, notre manière d'habiter et surtout la façon dont on va consommer l'habitat aujourd'hui et demain. Le sujet est urgent parce que tout simplement parce qu'ici en Occitanie, la situation est d'ores et déjà bien sûr préoccupante. La preuve, le climat qui peut avoir, bien évidemment. Bon, moi je suis sujet en plus aux variations de température. Humidité, ventilation, moisissure, rénovation, prévention, autant de sujets qui vous concernent. Un immense merci à vous, Murprotec, à toutes les équipes de Murprotec, un clin d'œil à notre ami Pascal Brunon, qui a présidé également à la constitution de tout le concept de Maison Saine. Merci à lui et merci aux équipes. C'est important. C'est là qu'on voit que le rôle d'un industriel est aussi un rôle presque thérapeutique, j'allais dire, citoyen dans la cité, avec l'initiation du programme Maison Saine, ce partenariat autour de la santé publique. On vous a donné l'adresse internet, bien évidemment. Dans les semaines et mois qui viennent, on va vous donner encore plus d'informations. Bien sûr, un immense merci à l'équipe technique, toujours aussi efficace, notre grand producteur, Grégoire Daricot, le seul, l'unique, le tatoué, c'est celui qu'on aime beaucoup. Merci également donc à Pascal Brunon, merci à Laurine, à toutes les équipes de Murprotec qui nous aident au quotidien. Merci à vous, Edouard David. Un immense merci à notre Eric Cala National qui a également réalisé le conducteur de cette émission et choisi le casting. Un immense merci également à Lorenzo Il Magnifico, notre directeur artistique qui est présent derrière la caméra. C'est ce qu'on ne voit pas, mais on ne pourrait rien faire sans eux. Et bien sûr, le Baptiste Plouchard, le docteur Einstein de la régie qui est avec nous et qui partage ce moment ici à Toulouse. Prenez soin de vous, un excellent salon à vous et on va se retrouver, Bruno, l'année prochaine pour une nouvelle édition justement du salon environnement et qualité de l'air avec Murprotec et Maison Saine, bien sûr.
Maison Saine, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.